France Culture.
Les midi, deuxième partie, c'est parti. Bienvenue à toutes et à tous. À 13h, comme promis, on discutera avec le comédien Swann Harlow à l'affiche de la pièce Trahison d'Harold Pinter. Mais tout de suite, place au point culture de Marie Sorbier. Bonjour Marie.
Bonjour Marie, comme on parle mode, j'aime beaucoup votre t-shirt.
C'est vrai,
avant
la boum, la boum, la boum.
La boum, la boum, la boum. Alors, il y a 60 ans, en France, André Courrèges emboîtait le pas de Marie Cointe et créait la mini-jupe, outrageusement courte selon les commentaires de l'époque. Les critiques fusent en même temps que les jambes se libèrent et le vêtement s'affirme comme une affaire sociale. Aussi bien que comme une affaire de mode. Le vêtement comme outil contestataire, c'est le dossier du Point Culture du jour. François Ormond, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur de sciences politiques à l'Université d'Angers. Vous avez fait paraître aux presses universitaires de France en 2024 un ouvrage qui s'intitule « L'étoffe des contestataires ». Est-ce que vous diriez qu'en 2025, la mini-jupe est toujours un outil de contestation ?
Je crois qu'il est difficile de d'investir nécessairement un outil de contestation sociopolitique, au sens où elle a pu jouer ce rôle, et encore, elle n'a pas nécessairement été investie comme telle lorsqu'elle est apparue en 1962, puis en 1965. Aujourd'hui, je ne suis pas sûr qu'elle puisse jouer ce rôle-là. Parce qu'en fait, lorsqu'elle apparaît, alors on l'attribue souvent à André Courrèges, qui en fait l'élément phare de sa collection printemps-été 1965, mais en fait, la mini-jupe est apparue en Grande-Bretagne, 3 ans plus tôt, hein, sous le gîte de la styliste Marie Cointe, qui la popularise et qui la vend dans sa boutique, qui se situe sur King's Road. Mais déjà, à cette époque, on peut pas dire que cette révolution de tissu que constitue la mini-jupe ait été véritablement investie en outil de contestation. Elle le devient de facto, en ce sens que la mini-jupe va transgresser un certain nombre de normes sociales, un conformisme aussi, en favorisant l'exposition des corps, et notamment l'exposition des jambes féminines, dans un contexte, encore une fois, marqué par des normes assez strictes de pudeur, de retenue, qui obligent, en tout cas en France, les femmes à porter des jupes plutôt longues, au-dessous du genou. Et donc,
mais ces femmes qui portent ces mini-jupes en 1965 en France, quand elles la portent, elles n'ont pas l'impression de poser quand même un geste et social et politique dans la rue ?
Alors, un geste sans doute social, est-il conscientisé comme politique ? C'est peut-être plus difficile de le qualifier comme tel. Sans doute qu'il y a une volonté de transgresser un certain nombre de normes vestimentaires et morales qui sont celles de l'époque. En ce sens, en effet, c'est contestataire, même si la jupe n'est pas politiquement investie comme telle. Mais, en effet, si on suit les mouvements sociaux, elle apparaît bien comme sulfureuse, si l'on peut dire, à travers cette forme de libération des corps qui est aussi en phase avec l'espace, pourrait-on dire, 68 ans au sens large du terme, puisqu'on se souvient qu'en mai 68, l'un des slogans phares, c'est vivre sans temps mort, jouir sans entrave. Et cette aspiration un petit peu libertaire à la libération des désirs, elle est aussi consubstantielle de cette politisation des corps qui s'opère dans la société tout entière. Donc en ce sens, en effet, on peut la qualifier comme telle, même si elle ne prend pas l'allure d'un manifeste, comme pourront le faire par exemple les féministes américaines en 68, lorsqu'elles inviteront les femmes à brûler leur soutien-gorge et à jeter leur soutien-gorge dans des poubelles de la liberté, notamment à l'occasion de la célèbre élection Miss America, qui vit se cristalliser ce mouvement qu'on a pu qualifier de bra burner aux États-Unis.
Alors plus généralement, diriez-vous qu'aujourd'hui, le vêtement est toujours un moyen privilégié de signifier son identité ou son combat ?
Bien sûr que cette dimension contestataire et identitaire n'a pas disparu. C'est quelque chose d'assez ancien. La Révolution française elle-même est indissociable de toute une prolifération vestimentaire, du rejet de la culotte aristocratique au profit du pantalon, du bonnet phrygien à la cocarde tricolore. Donc il y a une contestation politique ici qui se trouve matérialisée et portée par le vêtement. On le retrouvera aussi avec les suffragettes qui inventent une forme de dress code chromatique associée à leur combat. On le retrouvera dans l'entre-deux-guerres avec l'essor des chemises, ces sociétés enchemisées que décrit très bien l'historien Philippe Burin. Mais aujourd'hui, on le voit bien aussi dans le paysage politique. Alors, on l'a vu avec les gilets jaunes, on l'a vu avec les bonnets rouges en 2013, ou plus récemment encore avec les bonnets jaunes de la Confédération rurale. Donc, le vêtement ou une certaines pièces de vêtements restent des éléments et des symboles qui favorisent à la fois la visibilité des mouvements contestataires, mais aussi la construction de ces identités au sein d'une communauté donnée.
Est-ce que ces contestations par le vêtement sont toujours dans une certaine ostentation, j'allais dire très marquée, ou bien est-ce qu'elle peut être aussi plus directe et plus souterraine ?
Alors, dans les régimes démocratiques, il va de soi que le principe de visibilité en lien avec la liberté d'expression favorise et même invite à l'expression de l'ostentation. Pourquoi ? Parce que on peut dire que finalement, les vêtements participent à l'expression des contestations dans un triple sens, parce qu'elles permettent de faire voir, et on sait que la visibilité est évidemment un principe essentiel dans les sociétés modernes et postmodernes, elles permettent de faire sens, de donner du sens et de donner à lire aussi les contestations sociopolitiques et les revendications, et elles permettent de faire corps parce qu'elles constituent un ciment, ces vêtements peuvent constituer un ciment identitaire qui permet l'agrégation au groupe et qui permet de renforcer l'identité du groupe dans l'espace public. Mais les formes de contestation par le vêtement ou par des accessoires peuvent aussi se décliner sur un mode plus discret, et c'est plutôt davantage dans les régimes autoritaires que cette discrétion contestataire se décline, puisque ces régimes autoritaires, en effet, sont marqués par une répression de la liberté d'expression. On l'a vu en Iran, comment la contestation iranienne, de la jeunesse iranienne, est partie d'un voile mal porté par cette jeune iranienne qui sera emprisonnée et qui mourra quelques jours après avoir été incarcérée dans les prisons. Et donc, les femmes ont souvent, et peut-être encore aujourd'hui, étaient l'objet de regards critiques, éventuellement censeurs, de la part des sociétés patriarcales. On le voit bien, par exemple, pour prendre un autre cas, qui n'est plus celui de la mini-jupe, mais du pantalon, comment le pantalon, qui n'est pas en soi un vêtement contestataire, sociopolitique, comment le port du pantalon a pu susciter de vives controverses, et cela encore jusqu'aux années 70, pour les femmes. Pourquoi ? Parce que ils renvoyaient originellement à une division genrée et sexuée des rôles sociaux. C'est un marqueur du dimorphisme sexuel depuis très longtemps. Et donc, il était associé à la masculinité et au pouvoir, d'une certaine façon, comme l'atteste l'expression « porter la culotte », si l'on peut dire. Mais dans les années 70, ça peut paraître si proche, et pourtant, le port du pantalon ne va pas de soi. Il y a une anecdote assez célèbre en matière politique concernant Michèle Alliot-Marie, l'ancienne ministre, qui à l'époque, en 1972, n'est qu'une assistante parlementaire, et qui se présente à l'Assemblée nationale en pantalon, et qui se voit refuser l'accès de l'Assemblée par les huissiers. Alors elle les menace alors d'enlever son pantalon pour rentrer. Finalement, elle obtient gain de cause, mais on voit bien qu'on est encore en 1972 et il y a dans certains milieux professionnels et notamment dans le milieu politique, un certain nombre de normes genrées qui perdurent et qui perdureront. On le revoit sur un autre registre avec Cécile Duflot lorsqu'elle est nommée ministre du Logement en 2012. Deux polémiques célèbres accompagnent ces apparitions. La première, lorsqu'elle apparaît au Conseil des ministres, au premier Conseil des ministres en jean, on voit ici que son port, dans certains contextes, dans certaines arènes, devient problématique. Et inversement, on se souvient aussi de son apparition dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale, en robe à fleurs, où elle avait alors suscité tout un certain nombre de sifflets sexistes de la part de certains collègues masculins. Donc on voit que pour les femmes, le port du vêtement, que ce soit du jean ou d'une simple robe à fleurs, peut devenir problématique selon les contextes. Il y a évidemment une inégalité genrée, il me semble.
Et on entend, quand vous racontez ces anecdotes-là, qu'il y a encore du travail. Merci beaucoup, François Ormand.
Merci.
Et dans le reste de l'actualité culturelle, Marie, une découverte archéologique importante vient d'être faite au Danemark.
Oui, des archéologues danois ont mis au jour un site vieux de 4000 ans à Ars, une ville au nord du pays, lors de travaux pour la construction d'habitations. Il s'agit d'une structure ovale de 30 mètres de diamètre qui daterait de la fin du néolithique, entourée de 45 pieux en bois. Une autre tombe avait été retrouvée sur le site, ainsi que des restes d'un hameau. Les fouilles sur place continuent. Les archéologues recherchent à présent des objets ou des restes pour comprendre l'utilité d'un tel lieu. Si des cercles similaires avaient été déjà repérés dans cette région, cette découverte reste inédite par son envergure.
Et pour finir, Marie, le Grand Rex à Paris a été élu plus beau cinéma du monde.
Oui, le média britannique Time Out vient de publier son classement des plus belles salles de cinéma et le Grand Rex, situé dans le 2e arrondissement de Paris, arrive en tête. Time Out salue la rénovation réussie du lieu en 2022 à l'occasion de ses 90 ans qui avait permis de remettre en valeur sa façade art déco mais aussi sa technologie. Le Grand Rex possède 7 salles dont la plus grande a une capacité de 2700 places. Ce n'est néanmoins pas le seul cinéma français à figurer dans ce classement. On retrouve 3 autres salles parisiennes et 2 autres en région, le Colisée à Carcassonne et le Cosmos à Strasbourg.
C'est vrai qu'il est beau le Cosmos à Strasbourg, je suis d'accord. Merci Marie, on se retrouve lundi pour un nouveau Point Culture.